j'aurai pas le temps de prendre d'autres témoignages, mais c'était un moment particulier et prochaine fois qu'il y a une retraite, les femmes, un coup de coude à votre mari. Dites, c'est là ta place. Vas-y. Et vous allez apprécier. Ce matin, on veut toucher à un thème particulier. Je l'ai appelé « Dilemme entre deux alliances ». Parce que lorsque je regarde la vie de certains croyants, ça ressemble à un dilemme, leur vie. C'est-à-dire, j'aurais pu appeler ce message-là aussi « Nouvelle alliance 101 » ou bien « Nouvelle alliance pour les nuls », parce qu'il y a souvent ces fameux livres pour les nuls. Les bases, c'est-à-dire ce matin, mon but, c'est de s'assurer qu'on soit tous sur la même page, qu'on avance ensemble et qu'on ait cette compréhension commune de ce que c'est d'être dans cette nouvelle alliance. Si je vous pose la question, qui fréquente l'Église ici depuis moins de 3 ans? 3 ans et moins. Levez la main très haute. OK. Et les autres, vous êtes depuis plus longtemps. Donc, tous ceux qui ont levé la main, c'est bien, je vais sortir mes notes d'il y a 4 ans et puis je vais être correct. C'est-à-dire, à quelque part, il y a des sujets qu'on traite et qu'on doit ramener et ramener. Et ce matin, ce sujet-là, je vais le ramener. Ça peut ressembler à un sprint. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, de tout retenir, allez voir le message sur la page Facebook, sur la page web de l'Église. Allez le réécouter pour vraiment prendre un moment parce qu'on a beaucoup de passages, de versets à regarder. Ça va ressembler à un sprint ce matin. Mais dans quelle mesure la Nouvelle Alliance a transformé votre vie, vos croyances? C'est vraiment ça l'idée. Est-ce que vous êtes arrivé à destination ou bien vous êtes à quelque part dans la confusion? Est-ce que votre vie ressemble à ça? Je mets une image ici. Comme une lutte entre deux réalités. C'est un effort d'être chrétien. Est-ce que je suis saint ou bien je suis pécheur? Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut ou bien j'espère être sauvé? Il y a quelquefois, il y a cette tempête dans notre cœur ou plutôt cette confusion entre deux réalités. Est-ce que je suis vraiment aimé de Dieu ou bien je dois en faire plus avant qu'il m'aime plus? La grâce, elle va jusqu'où, une fois que je suis sauvé? Parce que quelquefois, je regarde la vie de certains croyants et on dirait qu'ils croient que la grâce, elle a été là pour te faire entrer dans le royaume de Dieu. Puis une fois que tu es dans le royaume de Dieu, là, wow, relève tes manches, travaille dur. Ils sont capables de croire la grâce pour le salut, mais par la suite, il faut travailler dur. Ou bien, c'est quoi la note de passage? Moi, c'était ça ma question pendant longtemps. C'est quoi la note de passage pour être sûr que je suis sûr, que je suis sûr, que je suis sûr, que je suis sauvé? Alors, j'ai observé tous les chrétiens autour de moi et je me suis dit, OK, si la moyenne des chrétiens sont à ce niveau-là, OK, je vais tirer en haut, je devrais avoir plus de chances d'être sauvé. Il y avait une certaine confusion dans mon cœur parce que à quelque part, mes croyances étaient à quelque part entre les deux alliances, si je peux dire. J'entrais dans la nouvelle alliance, mais je ne m'étais pas départi de cette mentalité-là de l'ancienne alliance. Alors, ce matin, on va revoir les bases. Attachez votre sucre, comme on dit au Québec, avec la broche, c'est parti. On va commencer avec des notions très simples. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 10, on lit « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ » une fois pour toutes. Nous avons été quoi? Rendus saints. Pécheurs sauvés par grâce? Ou bien pécheurs en rémission? Nous avons été rendus saints. Pour combien de temps? Pour la semaine? Jusqu'à ce que je pêche à nouveau? Une fois pour toutes, j'ai été rendu saint. Ça veut dire, lorsque je pêche, je suis plus saint? Ou bien lorsque je pêche, j'ai un avocat auprès du Père qu'on va voir tout à l'heure. On continue. Donc, l'auteur compare ensuite Jésus au prêtre de l'Ancien Testament, toujours dans Hébreux. Il dit, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc ici, on a cette notion claire, les prêtres doivent répéter le rituel à chaque jour dans le temple. Qu'en est-il de Jésus? Que signifie le fait qu'il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu? Est-ce qu'il est venu nous visiter et il a dit, « Oh, cette gang de pécheurs, je ne veux plus rien savoir d'eux, je m'en retourne au ciel puis je ne veux pas revenir. » Ou bien ça a un autre sens, un sens beaucoup plus noble, je dirais. Se peut-il que ça veut dire que son sacrifice est complet et il n'y a pas besoin d'être répété? Et c'est la raison pour laquelle nous lisons à la fin, un seul sacrifice. Christ a offert un seul sacrifice et puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est-à-dire, mission accomplie. Tétélestai, comme on avait déjà vu. Tout est accompli. C'est parfait. Je n'ai pas besoin d'accomplir d'autres sacrifices. On continue. On n'a pas fini notre sprint. Et ça termine la conclusion de ce passage avec Hébreux 10, verset 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. OK, petite révision. Combien d'offrandes sont nécessaires? Une seule offrande. Une seule offrande, ça veut-tu dire à tous les jours, je dois faire ma part, je dois faire un effort? Et il nous a conduit à quoi? À nous améliorer? À être un peu moins pécheurs? À faire un peu mieux? Il nous a conduit à la perfection. Cool! Vous savez, le mot perfection, c'est vraiment intéressant parce que Jésus dit, alors qu'il est encore dans l'Ancien Testament, parce que Jésus est venu sur terre, c'est encore les rituels, c'est encore le temple. Et Jésus compare ce qu'il a été dit et il complète son message comme le sermon sur la montagne. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ouch! Ah, ça c'est dur, c'est ça, il faut travailler, je le savais! Et ici, c'est le même mot où, quelques années après, voici ce que les apôtres ont compris de ce que Jésus avait enseigné. Il a conduit à la perfection pour toujours, ce qu'il rend saint. Le même mot, perfection, rien à ajouter, complet. C'est le même mot grec utilisé ici que le mot parfait que Jésus a utilisé, avec une déclinaison différente naturellement, parfait et ici perfection, mais dans le même sens. Jésus dit « soyez parfaits » et la compréhension à travers tout son enseignement qu'il a apporté au niveau des disciples, c'est « il nous a rendus parfaits ». Youhou! Alléluia! Donc, il nous rend comment? Il nous rend moins pécheurs? Il nous rend un peu plus saints? Ce qu'il a, c'est la première alliance, une fois pour toutes, puis ça nous fait entrer dans la nouvelle alliance. Réaliser notre nature a changé. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes saints. Notre nature est maintenant encline vers la justice et non le péché. Trop souvent, on ne porte pas attention à ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous a toujours laissé avec notre volonté libre et la possibilité de pécher. Mais maintenant que je suis saint, je suis enclin, ma nature est encline à la sainteté et à la justice. Maintenant, un peu plus loin, ça dit clairement, ou un peu avant, il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et ici, l'auteur qui prend ce sens-là parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. À travers ce qu'il a accompli, une seule offrande, perfection pour toujours, est morte et la nouvelle alliance est née. Il semble que mon son coupe. Est-ce qu'on a un problème ou bien ça va? Je change de micro? C'est bon? OK. Good. OK. Donc, tu as toujours ta volonté de pécher. Tu es toujours libre de ta volonté. Tu as toujours la possibilité de pécher. Mais tu n'es plus enclin au péché. Et notre manière de nous voir soi-même va influencer notre expérience énormément. Si il nous rend saints par une seule offrande pour toujours, alors, on devrait, parce que trop souvent, je rencontre beaucoup de croyants qui disent « Hey, j'ai-tu demandé pardon à Dieu aujourd'hui? J'ai-tu demandé pardon à Dieu? » Et j'arrive à l'église, « Hey, il faut que je demande pardon à Dieu pour tous les péchés que j'aurais pu commettre dans la semaine, sinon Dieu ne va pas m'exaucer. » À quelque part, nous sommes saints. Dieu nous a rendus à la perfection. Et ce n'est pas avant d'arriver à l'église qu'on doit demander pardon, c'est lorsqu'on réalise qu'on a offensé, que ce soit Dieu, que ce soit notre épouse, nos enfants, n'importe qui d'autre, lorsqu'on réalise qu'on n'a pas été à la hauteur, on demande pardon. Systématiquement sur le champ, c'est tout. De demander pardon pour un péché que je ne sais pas que j'ai commis, honnêtement, ce n'est pas très réaliste. C'est comme Job qui offrait des sacrifices pour ses enfants au cas où ils aient péché. Et à quelque part, c'est la crainte qui nous motive quand c'est comme ça. On continue. L'apôtre Jean a dit, je pense que c'est Jean ou c'est Pierre, parce qu'ici j'ai écrit Jean, c'est quelqu'un péché, oui. J'imagine que c'est Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. Remarquez bien, il ne dit pas quand tu as péché parce que tu es un pécheur, si quelqu'un a péché parce que la possibilité est toujours là. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un avocat? Parce que vous savez, la Nouvelle Alliance est maintenant tournée vers la réconciliation et non le jugement, comme dans l'Ancien Testament. Donc, le pivot sur lequel repose ma relation avec Dieu, c'est ma sainteté. Alors, Dieu va m'offrir tout ce qu'il faut pour me rétablir pleinement dans ma relation avec lui. Il n'y a plus de raison de punir le péché. Au contraire, c'est la raison pour laquelle Dieu nous fournit cet avocat auprès du Père lorsqu'on réalise qu'on a manqué la cible à quelque part. Merci Seigneur, parce que Jésus-Christ, lui, il a tout payé. Et je vais chercher ce pardon à travers la repentance. On continue. Et c'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a eu un temps où je faisais le ministère, quand j'étais pasteur, où je n'aimais pas ce verset-là. Je n'aimais pas les chrétiens qui utilisaient ce verset-là, parce que je me disais, ah, c'est ça, ils utilisent ça pour excuser le péché, puis pour dire ceci, puis pour dire... Parce que vous savez, j'en ai déjà entendu. Puisque je suis une nouvelle créature, je peux divorcer ma femme, puis je vais en profiter. Donc, je vais rétrograder un temps, et je vais revenir au Seigneur, et puis je deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, ma femme devient parmi les choses anciennes, alors je peux recommencer à nouveau. Stupidité, c'est le seul mot que je peux trouver à ça. Mais j'ai compris que c'est tout à fait vrai. Nous sommes une nouvelle créature. Dieu n'a pas seulement enlevé la dette, la punition. Tu es une nouvelle créature. Tu t'es créé pour marcher dans la sainteté en relation avec Dieu. Puis Dieu a toujours voulu être en relation avec les hommes et les femmes. Il a créé tout être humain pour être en relation avec lui. C'était son désir depuis le début, depuis Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden. Dans Genèse, chapitre 3, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel parce qu'ils avaient honte. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Clairement, ce verset démontre une habitude. Une habitude qui était là présente. Lorsque il a remarqué Dieu venir dans le jardin, Adam savait qui s'en venait le voir pour avoir un temps de communion avec lui. Il a eu honte parce qu'il a détourné son attention vers l'ennemi au lieu de Dieu. Il a décidé d'obéir à l'ennemi et ses yeux se sont ouverts par rapport à sa vraie réalité pécheresse qui est venue sur lui. Donc, depuis le jardin d'Éden, ici on voit c'est Adam qui a rompu cette relation en se tournant ou en tournant son obéissance à l'ennemi vers Satan. Dieu a voulu rétablir cette relation. Vous savez, quand il a fait sortir le peuple d'Égypte, c'est vraiment intéressant, j'ai étudié à fond cette histoire-là, j'ai calculé combien de fois Moïse est monté, descendu sur la montagne. Moïse était vraiment en forme. J'ai calculé qu'il l'a fait 6 fois. Vous savez, à partir de cette première fois, lorsqu'il est avec les brebis, derrière le désert, c'est loin, ça c'est creux, derrière le désert, au fond du pays, vers le mont Sinaï, il a ce buisson ardent et Dieu lui parle et Dieu lui donne sa mission. Je veux que tu délivres mon peuple et tout. Et lorsqu'il demande un signe, il dit pas de problème. Le signe, c'est que le jour que tu vas être ici avec le peuple, ce sera ça ton signe. Oh, OK. Alors Moïse fait toute cette péripétie-là et puis il revient sur la montagne et là, il dit au peuple, OK, installez-vous, installez votre tente, je reviens. Et il monte sur la montagne et il dit, Dieu, je t'ai amené ton peuple. Dieu dit, c'est super cool, voici ce que tu vas leur dire, j'ai hâte de les rencontrer. Et Dieu fait une déclaration, littéralement une déclaration d'amour à son peuple. Il dit, et voici ce que Moïse dit de la part de Dieu aux Israélites, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, si vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, vous allez être un peuple chouchou, le peuple chouchou de Dieu, choisi de Dieu, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et c'est vraiment ça. Dieu se prépare dans tous ses plus beaux habits, si on pourrait le dire, dans 3 jours. Donc, Moïse revient et il dit, écoute, dans 3 jours, on a rendez-vous avec notre Dieu, notre Créateur. Préparez-vous, lavez-vous, etc. Purifiez-vous pour qu'on puisse rencontrer Dieu. Et le 3e jour, cet événement-là arrive. Mais vous savez, Dieu, même s'il marche à pointe des pieds, il fait du bruit. Au point où le peuple panique, le peuple, finalement, Dieu invite le peuple dans une relation d'intimité avec lui. Enfin, mon peuple va me connaître. Jusqu'à date, mon peuple a connu Moïse, qui les a dirigés. Et Moïse a parlé de ma part, mais ils ne m'ont pas encore rencontré. Maintenant, ils vont me rencontrer. Youhou! Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple dit non. Le peuple dit non. Tu nous fais trop peur. Tu fais trop de bruit. On a peur de mourir. Tu es trop impressionnant. Et ils disent à Moïse, Moïse, toi, va voir Dieu. Demande-lui ce qui s'attend de nous, puis tu viens nous le dire. C'est ce qu'ils ont fait. Moïse était offensé. Dieu a dit non, c'est correct. Le peuple a dit, on veut des règles. Dieu leur a donné la loi, les 10 commandements et 211 règles à suivre. C'est ce qui s'est passé. Mais clairement, lorsque tu étudies à fond cette histoire de Moïse, cette relation avec Dieu, cette péripétie, comment il a fait sortir le peuple d'Israël, c'est vraiment incroyable, impressionnant, parce que même pendant que il s'en va vers le mont Sinaï, Dieu ne peut pas attendre, il est trop impatient. Puis il en profite pour parler déjà au peuple, de dire, écoutez, tout ce que vous avez vu en Égypte, les maladies, là, vous ne les aurez pas parce que c'est moi l'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit. Avant même d'arriver au mont Sinaï, déjà Dieu leur fait une déclaration d'amour, de dire, hey, je suis l'Éternel et c'est moi qui te guéris, c'est moi qui t'apporte le bien-être, la vie, ainsi de suite, sans que le peuple d'Israël ait rien demandé. Mais ça ne s'est pas passé comme on s'y attendait. Et plus tard, presque 500 ans plus tard, David, dans un des psaumes, déclare dans le psaume 53, après avoir mis en pratique cette loi, David déclare, « Tous se sont détournés », psaume 53, 4. « Tous ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Le peuple avait choisi les règles, alors Dieu leur a donné la loi à la place de cette relation d'intimité. Ensuite, Ésaïe, quelques siècles plus tard, a prophétisé qu'il y aurait un agneau qui serait sacrifié comme un sacrifice parfait. Et nous n'aurons plus à nous approcher de Dieu basé sur nos propres mérites, sur l'accomplissement de la loi, mais sur le mérite de ce sacrifice parfait qu'elle a été accomplie. Et on a Ésaïe 53 qui en parle, et on a plusieurs passages dans Ésaïe qui nous montrent qu'est-ce que ce Messie va accomplir, Ésaïe 61, qu'on appelle le mandat messianique. Et on voit tout cet aspect-là, où déjà Ésaïe en parle de la part de Dieu, « Voici, je vais accomplir ce sacrifice parfait. » Mais il y avait un problème majeur. Dieu voulait les ramener toujours en relation avec lui. Il y avait un problème, c'est qu'il y avait déjà une alliance qui était en vigueur. Autrement dit, Dieu ne pouvait pas se marier à nouveau avec un peuple auquel il fallait que, premièrement qu'il divorce de cette première alliance, si on peut le dire. Il fallait que cette première alliance devienne caduque. Puis pour l'annuler, il fallait qu'une des parties meure. Ou bien toute la nation allait mourir, ou bien Dieu a choisi de mourir. Jésus est mort à notre place pour permettre à cette nouvelle alliance d'entrer en vigueur. Et voici comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit en citant... En tentant d'expliquer d'une manière plus clairement. Il dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, c'est aussi un engagement dans un sens, mais qui est effectif à la mort du testateur. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'y a aucun effet tant que le testateur vit. Et dans Hébreux 9, l'auteur est en train d'expliquer que Dieu avait un dilemme. Pour briser ou rompre cette alliance, pour qu'elle devienne caduque, il fallait mourir. Et lui a décidé de mourir au lieu de nous faire mourir, si je peux le dire de cette manière-là. Et je n'ai plus à entrer dans sa présence basée sur mes œuvres, mais sur son œuvre de la croix, sur l'œuvre que Jésus, cet agneau, est venu accomplir comme sacrifice parfait. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, voici comment l'auteur aux Hébreux l'explique basé sur une des prophéties de Jérémie. Jérémie, dans le chapitre 31, a une prophétie merveilleuse au verset 33-34, mais ici, on le voit ici dans Hébreux 8, verset 10, où déjà Jérémie prévoit cette chose-là. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur. C'est vraiment spécial. Et ça continue, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et c'est intéressant parce qu'ici, le mot « ancienne » qui a été choisi dans un français plus moderne, c'est le sens d'obsolète, de périmé, de fini. Et ici, qui a vieilli et qui est prêt de disparaître, qui est prêt d'être absoute complètement, qui est en train de disparaître. Donc, ancienne, ça veut dire qu'il est complètement obsolète. Et c'est une citation ici de Jérémie. « Nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance. Jésus est venu accomplir toute la loi, les prophètes qui étaient basés sur la loi, sur les règles, et en même temps sur, j'appellerais les malédictions si ce n'était pas accompli. Et on le voit dans Deutéronome 28, on voit tout cet aspect-là, bénédiction, malédiction. Jésus présente cette nouvelle perspective dans son enseignement aussi. Lorsque Jésus a enseigné, il en a parlé. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelque chose de plus simple. On a fait une course jusqu'à maintenant, un sprint. On va prendre notre souffle. On va prendre une gorgée d'eau. Vous allez me dire, oui, cette eau-là n'est pas limpide. J'ai ajouté un petit peu de Yamaguchi tout à l'heure dedans. C'est bon pour la voix. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Yamaguchi, on a des frères, des sœurs qui savent ce que c'est ici. Et puis, vous pourrez vous informer. OK. Jésus dit à plusieurs reprises ici dans le Sermon sur la montagne, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Qui a dit ça? Où est-ce qu'ils ont appris ça? Qui est-ce qui a déclaré ça? Vous savez quoi? C'est Dieu. Dans Deutéronome, on a, comme je disais tout à l'heure, se rappelle des bénédictions et des malédictions. Et puis dans Deutéronome, la première série de versets jusqu'à peu près verset 15, c'est toutes les bénédictions. Tu seras béni dans la ville, dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton troupeau, ta corbeille, ta huche sera bénie. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, tes greniers, dans toutes tes entreprises. L'Éternel te comblera de biens. Il va envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays, etc. C'est comme si aujourd'hui, le Seigneur va dire, écoute, je vais bénir ta maison, je vais bénir ton auto, je vais bénir ton ordi, je vais bénir ton Wi-Fi, je vais tout bénir, je vais bénir ton emploi, je vais bénir ton compte en banque. Wow! C'était toute une bénédiction. Mais il y avait aussi les malédictions qui suivaient. Dans les bénédictions, j'ai envoyé la pluie. Dans les malédictions, j'en nomme une parce que on s'arrête pas nécessairement sur les malédictions. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze. L'Éternel enverra sur ton pays du sable et de la poussière au lieu de la pluie. Et on voyait plusieurs malédictions. Donc, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Un peu plus loin, on va le voir, mais moi, je vous dis. Mais avant d'arriver là, j'aimerais juste attirer votre attention. Même la prière de Salomon lorsqu'il a consacré le temple, il a fait une prière formidable. Et il dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, sincèrement, exauce-les des cieux. Même Salomon, tout le monde était conscient. Dieu bénit avec la pluie. Mais lorsqu'on se détourne de l'Éternel, on risque de connaître une sécheresse. Puis dans l'Ancien Testament, il y a Élie. Il y a une histoire vraiment intéressante avec Élie et Akab. Élie déclare quelque chose à Akab. Voici ce qu'ils disent. Élie fait arrêter la pluie pendant 3 ans. Parce qu'Élie réalise, wow, Akab et Jézabel, ils sont méchants. Il n'est pas supposé de pleuvoir. Il devrait subir la malédiction. Alors, Élie va les voir. Puis il dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. » Il n'est pas encore mort. Il n'a pas disparu, il ne t'a pas oublié. Il n'y aura pas ces années-ci, il n'y aura même pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Il n'est pas en train de dire que, et on voit à travers ce message-là que Élie n'est pas en train de déclarer de la part de Dieu parce que Dieu lui demande de le déclarer. Élie a réalisé ce qui est écrit dans la loi, les bénédictions et les malédictions, et tout à coup il réalise, « Oh, toi le méchant, là, il n'est pas supposé te le voir sur ta tête. Alors je déclare qu'il n'y aura pas de pluie de la part de Dieu parce que Dieu est vivant. Je sais que Dieu m'écoute. Et il va pleuvoir à nouveau seulement quand je le dirai. » Et c'est assez spécial parce que c'est ce qui est arrivé. Dans l'Ancien Testament, il ne pleut pas sur les injustes. Jésus dit, on revient en arrière, juste pour vous avez appris qu'il a été dit, tu aimes ton prochain, tu détestes ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous avez remarqué la transition? Dans la Nouvelle Alliance, il pleut sur qui? Il pleut sur tout le monde. Ouh! Très, très différent. Avez-vous remarqué les mots utilisés? Je les ai mis en caractère gros souligné, je vais être sûr que vous ne les manquiez pas. Il parle d'aimer, de bénir, de faire du bien, de prier, afin d'être les fils de votre Père céleste. Si vous faites ça, vous êtes comme votre Père. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous serez comme votre Père céleste. Wow! Mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Josué, je sais que Dieu est capable de parler à Josué, et mon souhait, c'est qu'il le fasse tous les jours, mais ici, on parle de Josué. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Josué de tuer tout le monde, de laisser aucun survivant, lorsqu'il est entré dans la terre promise? Saül n'a-t-il pas perdu sa royauté parce qu'il a fait grâce au roi Agag au lieu de le tuer? On voit Samuel lui parler dans ce sens-là. On connaît David et le fait qu'il a vaincu Goliath. On dit, ouais, go, David, hey, t'es notre héros. Mais David, en réalité, il tuait tous ceux qui n'aimaient pas Dieu. C'est pas seulement Goliath. Je sais, ça paraît vraiment horrible ce que je suis en train de dire. David lui-même l'a déclaré dans le psaume 139, verset 22. « Je déteste ceux qui détestent d'une manière absolue. Ils sont pour moi des ennemis. » Et dans un autre psaume, David dit « Casse-leur les dents !» Et ainsi de suite. Donc, ça vous donne une idée. Sous l'Ancienne Alliance, la réalité était très différente. Êtes-vous content de vivre de l'autre côté de la croix, hein? Une chance qu'on vit de l'autre côté de la croix et qu'on n'ait pas des gens qui nous détesteraient de cette manière-là, comme David a pu le faire envers les ennemis de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prend la Sainte-Seine, et on va prendre la Sainte-Seine dimanche prochain. C'est pour nous rappeler de quel côté de la croix on est. C'est pour ça qu'on prend la Sainte-Seine. On veut se rappeler ce que Jésus a accompli et ce que ça apporte dans nos vies. Et c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Il est venu établir une nouvelle alliance. Dieu est le même. Vous savez, quelqu'un pourra dire, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, mais l'alliance a changé. Il s'est engagé, il a été prêt à mourir pour amener cette nouvelle alliance-là et rendre l'ancienne caduque, en réalité. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand il a voulu changer d'alliance, comme j'avais dit tantôt, il devait mourir pour rompre cette alliance-là, pour établir une nouvelle, puis c'est ce que Jésus est venu faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ramène le vieux dans le nouveau? Regarde, parce que souvent, c'est le cas. Si on a un ministère de jugement, on s'est trompé d'époque, on s'est trompé d'alliance, puis on s'est trompé d'onction, si je pourrais dire. Regardons un petit peu l'attitude du Nouveau Testament. Juste trois. On va aller rapidement pour... je ne vais pas être trop long ce matin. Voici ce que Jésus a déclaré. Dans l'Ancien Testament, ça aurait été complètement le contraire. Jésus, on le tue, puis lui, il répond, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne, on est en train de le lapider. Il dit, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » On a Paul qui est en train d'expliquer à Timothée que tous les collègues qui étaient proches de lui l'ont abandonné lorsqu'il a dû se défendre devant des ennemis. Et il dit qu'il ne leur en soit pas tenu compte. On voit une grosse différence. Dans l'Ancien Testament, Dieu juge le péché et le pécheur. Dans la Nouvelle Alliance, il transforme le pécheur en saint. Que vous le vouliez ou non, tout bad. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Il fait miséricorde à ceux qui ne le méritent pas. J'avais déjà utilisé cette illustration. Supposons que je tue ton frère. Ce n'est pas mon intention, mais c'est juste une image, OK? Ne me regardez pas avec des gros yeux comme ça. Supposons que j'ai tué ton frère et que devant le juge, ils me disent « Ah, Gaétan, Gaucher, ah, mais je connais bien ton père, on est allé à l'école ensemble. » OK, tu peux repartir, tu es libre. Combien vous êtes d'accord que, si c'est le cas, j'aurais obtenu miséricorde? Ah! Phew! Mais la justice n'aura pas été rendue. Vous pourrez déclarer « C'est injuste! C'est inique! C'est pas acceptable! » Et moi, je vais dire « Oh, merci! Merci, juge! Merci pour ta miséricorde! » Moi, je vais m'en tirer comme il faut. Mais la justice n'aura pas été accomplie. Et voici, c'est le défi que Dieu avait. C'est exactement le défi que Dieu avait. Dieu siège sur le trône de miséricorde. Lorsque Dieu a demandé de construire l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament et le coffre de l'Alliance dans lequel on mettait des choses, il y avait deux immenses séraphins au-dessus et la présence de Dieu se manifestait au milieu et on l'appelait en hébreu le Kaporet, qui était le siège de la miséricorde. Le siège de la bonté de Dieu qui se manifestait là, dans cet endroit-là. Donc, Dieu siège sur le trône de miséricorde, mais dans le psaume 97, verset 2, ça dit que la justice et le droit forment la base de son trône. C'est-à-dire, le fondement de son trône, c'est la justice, la droiture. Mais Dieu, tout ce qu'il veut faire, il veut faire miséricorde. Mais en même temps, il est juste, il est droit. Et il doit jongler avec toutes ces réalités qui semblent quelquefois s'opposer, ensemble. Alors, Dieu se devait d'accomplir la justice pour pouvoir exercer la miséricorde tout en restant un juge juste et équitable. Aucun sacrifice, aucun être humain ne pouvait accomplir cette justice-là. Donc, Dieu se devait de punir le péché et en même temps exercer la miséricorde. Ah, c'est tout un défi, mais c'est exactement ce que Paul a expliqué aux Romains. Et lorsqu'on remet dans le contexte, ça devient toujours un peu plus clair. Dieu doit exercer la justice parce qu'il est juste, il ne peut pas le faire autrement, mais Dieu nous aime tellement qu'il désire exercer aussi en même temps ce pardon, cette miséricorde, déverser sa compassion. Et Paul l'explique de cette manière. Alors, Jésus-Christ, dans Romains chapitre 3, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Ce que ça veut dire littéralement, c'est que lorsque Jésus a accepté de prendre cette punition, ce sacrifice a rencontré la justice de Dieu, et Dieu peut dire au pécheur, « T'es pardonné sans être un juge inique, parce que quelqu'un d'autre a payé le prix. » Vous savez, il y a un article de loi qui dit que tu ne peux pas être condamné deux fois pour le même crime. On ne peut pas être condamné deux fois pour le même crime si on a déjà commis on ne peut pas avoir deux condamnations différentes pour un même crime. Mais il y a des films qui ont déjà été faits là-dessus. Où quelqu'un a été accusé de crime de son conjoint, s'est retrouvé en prison et finalement, après quelques années, s'aperçoit que c'était un coup monté et que pour mettre un peu la pression sur son mari, finalement, qu'elle retrouve lorsqu'elle sort de prison. Elle lui rappelle que « Oh, je peux te tuer, puis je n'irai pas en prison. Je ne peux pas être accusé deux fois pour le même crime. J'ai déjà fait la prison pour ce crime-là, je peux te tuer maintenant devant moi, puis je n'irai même pas en prison. » Parce que c'est un élément de justice. Dieu devait rester juste et être capable de nous pardonner tout en restant juste. Et il a trouvé moyen de régler cette équation-là en venant mourir à notre place, à travers Jésus-Christ. Donc, Dieu a pu accomplir la justice, c'est pour ça qu'il peut exercer la miséricorde, sans être injuste. Donc, quand tu te punis toi-même en disant « Ah, c'est parce que je suis pécheur que ces choses-là arrivent, ah, c'est parce que je n'ai pas fait assez, ah, c'est ceci, c'est cela », tu es en train de déclarer ce que Jésus a fait pour toi, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu en fasses plus. Pour plaire à Dieu, pour être à la hauteur, pour savoir une bénédiction de plus, pour avoir sa faveur, qu'importe le mot que tu mets, si tu vis dans la crainte constante que c'est Dieu qui te punit pour X raison, ou bien tu as un pied dans l'ancienne et un pied dans la nouvelle alliance, ou bien tu es complètement dans la confusion, tu es en train de déclarer que ce que Jésus a fait, ce n'est pas suffisant. Alors, qui croit que ce que Jésus a fait n'est pas suffisant? Personne, hein? OK, cool. Cool. Vous savez, trop souvent, on accomplit notre propre rédemption. On se punit soi-même, si je peux le dire ainsi. On se punit soi-même quelquefois en croyant les mauvaises choses. Ah, si ça m'arrive, ah, ça doit être Dieu qui me punit. J'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez saint. Ah, j'ai fait telle chose, ça doit être ça. Ah, j'ai pas prié de la bonne manière, et etc., etc. Et c'est un genre de punition. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on voit deux aspects vraiment importants. Il y a deux hommes qui ont trahi Jésus. Il y a Judas, il y a Pierre. Judas a trahi Jésus lorsqu'il a réalisé le péché qu'il a commis. Il a créé sa propre rédemption. Il s'est pendu. Il a trouvé juste que de se pendre, c'était ce qu'il méritait. Pierre a trahi Jésus à trois reprises. Il a menti sur sa personne. Il a réalisé après, parce que Jésus lui avait dit, « Écoute, quand le coq va chanter, là, tu m'auras déjà renié trois fois. » Et lorsqu'il réalise, il est réellement peiné, il est en pleurs. Mais il est restauré dans sa relation avec Jésus. Il accepte la rédemption que Jésus lui accorde. Faites attention de ne pas créer votre propre rédemption ou quelquefois même votre propre grâce. Parce qu'à quelque part, Jésus a vraiment tout payé. Donc, ou bien tu fais comme Pierre, ou bien tu fais comme Judas, mais Judas, on discarte ça. On ne peut même pas dire ou bien tu fais comme Judas. On ne fait pas comme Judas parce qu'il y a une rédemption qui a été accomplie. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il n'y a plus de besoin de punir le péché. Il n'y a plus besoin de se dire, « Ah, je ne suis pas assez bon, c'est à cause de ceci ou à cause de cela. » Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas à s'assurer à chaque semaine, « OK, est-ce qu'il y a un péché que j'ai oublié de demander pardon? » Christ a payé pour tous nos péchés. On marche dans la sainteté. Lorsqu'on réalise qu'on a commis quelque chose qui brouille notre relation avec Dieu ou même avec quelqu'un d'autre, on s'excuse, on demande pardon et on laisse Dieu nous restaurer. C'est aussi simple que ça. Parce que notre nouvelle nature, nous sommes enclins à la justice et à la sainteté, et non l'inverse. Donc, oubliez, je suis un pauvre pécheur, oubliez cette expression-là. Vous savez, la tradition raconte que les chefs religieux de l'époque croyaient que lorsque le Messie allait arriver, certains racontent même que dans le temple à Jérusalem, il y avait une chaise, le siège du Messie, le trône du Messie, personne n'avait le droit de s'asseoir dessus. La personne qui viendrait, qui serait le Messie, ce serait la personne qui s'asseoirait dessus. Mais il y avait aussi cette autre tradition qui croyait, les chefs religieux croyaient à l'époque, que le Messie, on va le reconnaître parce qu'il va déclarer son ministère à travers la lecture de ce qu'on appelle la déclaration messianique ou le mandat messianique, Ésaïe chapitre 61. Et vous savez, dans Luc chapitre 4, Jésus commence son ministère. Il n'est pas à Jérusalem. Donc, si ce siège était à Jérusalem, présentement, il est à Nazareth, dans la synagogue, chez lui, dans son village, à Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est ce que Jésus a fait, sauf qu'il y avait un problème. Et vous voyez, dans les versets suivants, les gens ont réagi. Il y avait un problème. Jésus le déclare, il ferme le rouleau, il va s'asseoir. Peut-être qu'ils avaient fait un siège messianique dans les synagogues, je n'ai pas vérifié. Et il va s'asseoir et tout le monde le regarde. Et Jésus leur dit, cette parole-là de l'Écriture, elle est accomplie aujourd'hui. Oh, que ça réagit! Parce qu'il y avait un problème. Jésus, c'était le menuisier au coin de la rue. Quoi? Tu dis que tu es le Messie! Et ça fait réagir les gens dans toutes les directions. Donc, son premier message a été accueilli avec des cailloux et on voulait le tuer, le lapider, le jeter en bas de la falaise. Ça a été son premier salaire. Il ne l'a pas pris. Il est juste parti au milieu d'eux puis il a continué sa route. Mais ici, je vais attirer votre attention sur un autre détail important. Jésus cite Ésaïe 61, « Une année de grâce du Seigneur, point. » Allez voir dans Ésaïe 61. Le verset ne termine pas là. Le verset continue. C'est vraiment intéressant. Et le verset continue dans Ésaïe 61, « Et un jour de vengeance de notre Dieu. » Et pourquoi Jésus n'a pas terminé la phrase? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, le verset le plus important là-dedans, c'est le verset 17 qui suit. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Jésus était venu non pour juger, non pour condamner, pour sauver et restaurer l'humanité dans sa relation avec Dieu. Alors, ce jour de vengeance-là n'était pas nécessaire. Et je trouve intéressant que Jésus arrête exactement auparavant. Parce que le jour de vengeance, c'est le jour dernier. Alors que nous, nous vivons dans les derniers jours. Lorsque Pierre a, au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre en a parlé, réalisez-vous, Luc, lorsqu'il écrit les Actes, lorsqu'il commence, il commence dans le livre des Actes, premier chapitre, verset 3, il dit « Pendant 40 jours, Jésus s'est montré aux disciples et il a parlé avec eux de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Pendant 40 jours, cours intensif avec Jésus à tous les jours sur tous les aspects du royaume. Lorsque le jour de la Pentecôte arrive, Pierre sort et voici son explication. Il utilise cette prophétie-là de Joël. À la Pentecôte, Pierre explique ce qui se passe en parlant de Joël, en citant « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. » Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça, c'est la fin de son message. J'ai fait court, juste pour gagner du temps. Pierre, lui aussi, ne cite pas textuellement Joël. Je trouve ça intéressant. Après avoir passé 40 jours avec Jésus, lorsque cette manifestation est là, la venue du Saint-Esprit, Pierre dit « Voici ce qui se passe !» Et il déclare ça « Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais déverser mon esprit sur toute chair. C'est ce que vous voyez qui est en train de se passer. » Et c'est intéressant parce que Pierre termine la prophétie de Joël en la modifiant lui aussi, en parlant de ce jour grand et glorieux. Pierre parle de ce jour grand et glorieux parce qu'il parle dans les derniers jours. Il est en train de leur dire, voici maintenant les derniers jours se sont ouverts devant vous, cette ère de grâce où le Saint-Esprit va être déversé sur tout être humain. Nous sommes dans ces derniers jours encore aujourd'hui. Et Pierre ne cite pas tout à fait la prophétie de Joël parce que Joël dit « ce jour grand et terrible ». Et Pierre dit « ce jour grand et glorieux ». Ouh, ça change un peu le sens, trouvez-vous? Mais vous savez, depuis 2000 ans, nous sommes dans cette période de grâce et non de jugement. Nous sommes dans les derniers jours, mais nous ne sommes pas au jour dernier où il y aura ce jugement. Alors Pierre veut déclarer clairement, tout comme Jésus l'a fait, nous entrons dans cette ère de grâce et non de jugement. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance. Alors, comme je disais tantôt, si tu as un ministère de jugement, c'est que ou bien tu t'es trompé d'alliance, ou bien tu t'es trompé d'époque. Parce que quelque part, le ministère du Nouveau Testament prend une autre forme. Paul déclare dans 1 Corinthiens 4, il dit, pour ma part, là, il est en train de justifier son ministère. 1 Corinthiens 4, verset 3, « Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous, ou même par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je veux ou que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Et il continue en disant, je vous mets la suite maintenant, 1 Corinthiens 4, verset 5, « C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. » OK, c'est quoi la notion de cette nouvelle alliance? Paul est en train de dire, si tu juges, pose-toi une question. Est-ce que Jésus est revenu? Non. OK, jugement, on met ça de côté. Parce que Paul encore amène cette notion-là, ce n'est pas une ère de jugement, c'est une ère de grâce. On attribue un exemple ici, il termine en disant, « Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. » Oh, c'est ça, ce qui est caché dans le cœur, ça doit être du péché, ça doit être mal. Et on interprète très facilement cet aspect de « Oh, c'est des péchés, c'est ce qui est mal. » Sûrement, c'est ça que Jésus va démontrer à la fin. Mais laissez-moi vous suggérer quelque chose. On attribue trop facilement ce qui est caché au péché, au mal. Mais laissez-moi vous suggérer qu'on ne connaît pas les profondeurs de notre propre cœur. Quand tu te condamnes toi-même, constamment, puis tu demandes pardon à Dieu à toutes les minutes, j'appelle pas ça de la sanctification, j'appelle ça de la crainte, j'appelle ça de la confusion. Paul parle aux croyants ici, il parle aux croyants, il écrit à l'église de Corinthe, puis il dit, Dieu va révéler un jour ce qui est dans votre cœur, et devinez quoi? Vous savez quoi? Ce ne sera pas pour vous condamner. Il complète le verset en disant, « Chacun recevra alors du Seigneur la louange qui lui est due. » Complètement différent, cette nouvelle alliance. On ne parle plus de jugement. Il y aura le jugement au jour dernier, mais nous ne sommes pas dans le jour dernier, nous sommes dans les derniers jours, comme Paul, Pierre l'interprète dans les Actes. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul ici dit clairement, « Chacun va recevoir de Dieu la louange qui lui revient. » Tout à l'heure, on a loué Dieu, c'est ce qu'on a fait ce matin, mais un jour, Dieu va vous louer. S'il ne l'a pas déjà fait. Ce n'est pas qu'il ne veut pas le faire nécessairement d'avance, mais un jour, Dieu va vous louer. Vous savez, trop souvent, l'image qu'on a de la grâce, ça ressemble, vous connaissez la période de grâce avec les cartes de crédit? Des fois, on a l'impression que la grâce du Seigneur, c'est un peu la même chose. Pour une carte de crédit, ils ont pris le mot, l'expression période de grâce, ce fameux 3 semaines, ou après avoir reçu ton compte de carte de crédit, de toutes tes dépenses, on ne te charge rien, aucun intérêt. Mais en réalité, ce n'est pas un bon mot, ce n'est pas une période de grâce. On ne devrait pas l'appeler comme ça en réalité. C'est plus une période de sursis. On ne t'enlève pas ta dette. Mais la grâce, ce n'est pas ça. Et quelquefois, certains croyants croient qu'on part de ce jour de jugement parce qu'on se dit, c'est un peu comme la carte de crédit, OK, j'ai vécu la grâce de Dieu, oh, mais je vais passer au cash quand je vais passer devant lui. Sûrement qu'il y a des péchés à quelque part, il va me zapper. Ce n'est pas du tout ce que Paul comprenait. On retient tout jugement parce que ce n'est pas à nous de juger. Dieu est en mesure d'apporter son jugement. Mais Dieu va révéler les intentions, ou Dieu va révéler les profondeurs de notre cœur, et ce qu'il va révéler va l'amener à nous louer. Très intéressant. Vous savez, on a cette même notion dans l'Ancien Testament. Lorsque Saül a perdu ses ânesses. Et il part avec un serviteur, puis il cherche partout, il les trouve pas, il demande aux gens, y a-t-il un voyant ici? Oui, il y a Samuel. Et puis finalement, il se retrouve avec Samuel. Et Samuel lui dit, reste avec moi, puis demain, je te laisserai aller demain. Mais avant de partir, je vais te dire tout ce qui se passe dans ton cœur. Et qu'est-ce que Samuel a déclaré à Samuel à Saül, dans 1 Samuel 9? Je vais déclarer avant que tu partes tout ce qui est dans ton cœur. Saül ne savait pas qu'il allait être roi. Et Samuel, ce qu'il a fait, en réalité, il lui a déclaré sa destinée. Voici ce que Dieu t'appelle. Voici ce que tu vas être. Tu vas être le roi d'Israël, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Dans 1 Corinthiens 14, verset 25, Paul nous parle de la même chose lorsqu'on a la prophétie dans l'Église. Ce que la prophétie dans l'Église va accomplir, Paul dit les secrets de son cœur lorsque quelqu'un vient, un non-initié ou un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas habitué et qu'il entend certaines prophéties, les secrets de son cœur sont dévoilés, il va tomber sur son visage puis il va adorer Dieu. Et c'est pas, en général, on ne tombe pas sur notre visage en adorant Dieu lorsqu'on se fait traiter de tous les péchés possibles. Parce que trop souvent, notre pensée est tellement tordue négativement qu'on se dit « les secrets du cœur, ça doit être des péchés ». Non, pas nécessairement, parce que Paul, dans le même chapitre, toujours au chapitre 14 au début, il dit clairement que celui qui prophétise parle de la part de Dieu aux hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les édifie, il les encourage, il les réconforte. Oh, wow! Ça nous aide à comprendre ce passage-là où Paul dit « Dieu va révéler ». Les intentions des cœurs, et chacun va recevoir de Dieu la louange qui lui revient. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, celui qui prophétise parle de la part de Dieu aux hommes, il les édifie, il les encourage, il les réconforte. En terminant, ça nous amène à ce fameux passage. Incontournable, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset suivant est très important. Et tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En terminant, la loi de l'Ancien Testament dit, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas accompli toute la loi. Les prophètes de l'Ancien Testament disent « Tu mérites d'être jugé ». Le ministère prophétique des croyants du Nouveau Testament dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et lorsqu'on parle du ministère prophétique, c'est chaque croyant. Parce que quand j'utilise le mot prophétique, je veux dire parler de la part de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment? Comment est-ce qu'il nous a donné ce ministère de la réconciliation? Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Comment est-ce qu'on réconcilie les gens avec Dieu? En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Donc Dieu, il se juge et dit, je te pardonne. Et en le faisant, il est tout à fait juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ce péché, cette punition-là, il y a quelqu'un qui le subit. Je peux te libérer de la colère, de la punition, de la justice qui doit être accomplie, parce que quelqu'un a accompli une fois pour toutes, parfaitement, cette justice-là qui a été rencontrée. Donc, dans le Nouveau Testament, en d'autres mots, c'est « Tu mérites d'être puni, mais tu ne seras pas. » Comment? En recevant Jésus. En acceptant que Christ ait pris ta place. Parce que Jésus a déjà subi cette condamnation-là. Donc, le juge peut te laisser aller tout en étant juste parce que Jésus a payé. Je sais, ça semble redondant. Je veux être certain qu'on a vraiment saisi les bases les plus importantes de cette nouvelle alliance. Et en quoi? On va prendre un exemple en terminant. Je suis vraiment à la fin. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait un prophète de l'Ancien Testament, mettons Élie, et on le met dans la machine à remonter le temps, puis on l'emmène dans la Nouvelle Alliance? À quoi ressemblerait son ministère? Avez-vous déjà pensé à ça? Vous savez, Malachie l'a fait. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passerait? On prend un prophète de l'Ancien Testament, puis on l'emmène dans la Nouvelle Alliance. À quoi son ministère va ressembler dans la Nouvelle Alliance? C'est vraiment intéressant parce que ça fait partie des dernières paroles de l'Ancien Testament. Dans Malachie l'a fait pour Élie. Juste un petit rappel, qui était Élie? Élie, il a tué 400 prophètes de Baal. Il a créé une sécheresse de 3 ans qui a amené une famine au complet sur le pays au point où les gens ont fait du cannibalisme, des gens mangeaient leurs propres enfants. Ouch! Il a fait descendre le feu du ciel pour démontrer clairement qui était Dieu. Et j'en passe. Mais voici ce qu'Élie a accompli dans l'Ancien Testament comme ministère. Voulez-vous l'avoir? Voulez-vous qu'il prie pour vous? Maintenant, écoutez bien. Si on le transporte dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'il va faire? Malachie nous l'a montré clairement ici, en terminant. Et je n'ai même pas mis le chapitre ni le verset. Tout ce que je peux vous dire, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Donc, allez à Matthieu, tournez à gauche. C'est tout. La dernière déclaration de l'Ancien Testament, « Je vais envoyer Élie. » Voici ce qui va se passer. Voici, il est en train de prophétiser, Malachie. Il est en train de remonter le temps avec le ministère d'un prophète de l'Ancien Testament qui a été puissant, et il le projette dans l'avenir, dans la Nouvelle Alliance. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Remarquez, ce sont les dernières paroles de l'Ancien Testament, les derniers ou le dernier verset. Élie, dans la Nouvelle Alliance, réconcilie. Il exerce le ministère de réconciliation. Wow! Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance fait? Elle n'est pas en place pour reconnaître le péché des gens, mais elle est en place pour révéler leur destinée. On parlait de destinée la semaine passée. Annie parlait qu'on aura un cours « Découvrir ta destinée ». Mais c'est la notion du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est en place non pour reconnaître le péché des gens, mais pour le révéler. Je ne suis pas venu pour juger les gens. Je ne suis pas venu pour condamner les gens. Je suis venu pour les sauver. C'est ce que Jésus a répété à plusieurs reprises. Donc, ce qui est important, et je vais le répéter, si tu crois que tu as un ministère de jugement, ben tu t'es trompé d'époque ou d'alliance. Tu as mélangé le vieux avec le nouveau, puis tu deviens un croyant que je pourrais dire bipolaire. Dans le sens que tu oscilles entre deux pôles, que tu oscilles entre deux réalités. Je ne parle pas de la maladie, mais je parle de cet oscillement-là. Je prends des notions de l'Ancien Testament, « Oh, Dieu va te punir si tu fais ça », et je l'emmène dans le Nouveau Testament. Je suis désolé, ce n'est pas ce que Jésus est venu nous présenter. Pas du tout. Ta foi n'a pas oscillé entre deux alliances parce que Dieu est mort pour clore cette ancienne alliance. Il est mort à chacune de nos places. Donc, es-tu encore dans le désert ou bien tu es entré dans le pays promis de la nouvelle alliance? Et ce matin, on va se lever ensemble. Dieu lui-même est mort pour mettre fin à cette ancienne alliance. Et j'ai pris cette image-là parce que je la trouvais intéressante. Lorsqu'on est dans l'ancienne alliance, ou on a encore des croyances qui sont de l'ancienne alliance, on a l'impression d'être impuissant. On a l'impression que la vie chrétienne, c'est une lutte. Je dois travailler pour Dieu. Oh là là, j'aimerais ça que Dieu me donne une meilleure job. Il faut que je sois sage cette semaine. Il faut que je prie plus. Il faut que ceci, il faut cela. Je suis désolé, c'est une notion de l'Ancien Testament. La notion du Nouveau Testament. Hey, merci Seigneur de ce que tu as tout accompli à la croix. Tu m'as adopté comme ton fils, comme ta fille. Je peux m'approcher de toi devant ton trône pour être secouru dans mes besoins au temps opportun. Je peux m'approcher de toi avec assurance. Alors Seigneur, je viens avec assurance et je viens Seigneur te demander de venir renverser cette situation dans ma vie et de venir apporter la bénédiction. Et je le fais avec foi. Lorsqu'on marche dans cette nouvelle alliance-là, c'est la foi qui vient, qui grandit dans notre vie. Alors, la prochaine fois que l'ennemi te susurre à l'oreille, ah, tu n'es pas béni parce que ceci, tu n'es pas béni parce que cela. Dieu ne peut pas te répondre parce que tu n'as pas prié de la bonne manière. Si tu avais dit tel mot à la place de tel mot, peut-être que. Lorsque l'ennemi va essayer de susurrer quelque chose de cette manière-là, réponds-lui. Écoute, bonhomme, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'époque, puis tu t'es trompé d'alliance. Alors, fous le camp, c'est tout. J'ai pas besoin de toi dans mes pattes. Rappelons-nous, je termine avec ce verset-là parce qu'on ne peut pas le manquer. Il faut que je l'inclue à quelque part. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce matin, je termine avec un mot de prière et je vous libère tout de suite. Je sais qu'on a fait un sprint, on est arrivé à la ligne d'arrivée, mais ce matin, le Saint-Esprit, ma conviction est que le Saint-Esprit veut t'emmener à quelque part ce matin. Le Saint-Esprit t'invite, non à en faire plus. Le Saint-Esprit t'invite maintenant à capituler, à abandonner cet effort de bâtir ta propre grâce et ta propre faveur de Dieu. Dans un mauvais contexte, en pensant que si tu en fais plus, c'est là que Dieu va te bénir plus. Dieu te dit, viens ce matin à mes pieds. Viens savourer ce que j'ai accompli pour toi. Entre dans ma présence. Entre dans cette nouvelle réalité. Laisse mon Saint-Esprit te remplir et surtout changer ta manière de penser. Tu marches, tu es un être nouveau, né de nouveau. Mon Saint-Esprit habite en toi. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui est destinée à marcher dans la sainteté et dans la relation avec Dieu. C'est ce que tu es ce matin. Saint-Esprit, ce matin, je veux que tu viennes et tu viennes briser les dernières résistances. Saint-Esprit, viens détruire les mensonges de l'ennemi dans nos vies. Où l'on croit qu'on va être capable, par nos efforts quotidiens, à obtenir plus de grâce de la part de Dieu. Viens, Saint-Esprit, briser maintenant. Seigneur Dieu, nous venons en tant que ton peuple. Et Seigneur, nous abandonnons, nous arrêtons de lutter, de combattre par nos propres efforts. Et nous reconnaissons que cette alliance, t'es mort à notre place, Seigneur, nous fait entrer dans une nouvelle ère, dans cette ère des derniers jours où tu désires répandre ton esprit sur chaque être humain. Seigneur, répands ta faveur sur nous ce matin. Amène-nous à capituler, à dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais vivre dans une nouvelle dimension, dans ma relation avec Dieu. Je veux vivre à partir du fait que je comprends que tu as tout accompli. Je comprends que tu m'aimes, que je suis pleinement accepté de ta part et qu'il n'y a rien de plus que je puisse faire pour que tu m'aimes plus et que cette nouvelle alliance soit plus efficace. Merci, Saint-Esprit, de nous accompagner. Accompagne-nous cette semaine. Ramène ces passages à notre esprit. Souffle à notre oreille encore. Parle-nous des mots d'amour, Seigneur. Viens nous rappeler à quel point, Seigneur, tu as tout accompli. Et Seigneur, tu nous invites dans une nouvelle réalité, une nouvelle dimension, celle de fils et de filles qui explorent leur héritage, qui explorent les dimensions du royaume et de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Seigneur, cette semaine, surprends-nous. Révèle-toi à nous d'une manière extraordinaire. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir sprinté avec moi. Passez un beau dimanche. Passez une très belle semaine. Amen.